Ils ont pensé à quatre mains une amitié philosophique.
Ils ont écrit des livres ensemble sans qu'à aucun moment on ne puisse plus savoir ce qu'était l'apport de l'un et l'apport de l'autre. Et en même temps, la réflexion, c'est est-ce qu'on est le même quand on est le père s'adressant à son enfant, quand on est le mari s'adressant à sa femme ou l'amant à sa maîtresse, quand on est le travailleur s'adressant à son employeur, c'est-à-dire cette façon de faire surgir la multiplicité de chaque individu. Cette idée qu'on n'est jamais un, mais plusieurs.
Prénom ?
Gilles et Félix, ou bien leur surnom, Félix Gilles.
Nom ?
Guattareuse, non pardon, Deleuze et Guattari.
Quelles sont leurs dates de naissance, à l'un et à l'autre ?
Bon, Gilles Deleuze est l'aîné, 1925, Félix Guattari le cadet, 1930, mais ne leur demandez pas qui ils sont, ni de rester où ils étaient, ce sera une morale d'état civil.
Gilles Deleuze est un philosophe reconnu, et Guattari, un électron libre.
Alors le premier n'a cessé de visiter, à sa façon, hein, le panthéon de la pensée occidentale, Kant, Hume, Spinoza, Bergson. Il ne peut supporter la présence des fous, mais il va travailler avec le second, qui est le co-animateur d'une clinique psychiatrique pionnière, la Borde, dans le Loir-et-Cher. Gilles, il est docteur en Sorbonne, alors que Félix n'est ni docteur en médecine, ni psychiatre. Il exerce sans diplôme correspondant des fonctions qu'il excède tout le temps.
Leur rencontre ?
Sans doute n'aurait-elle pas eu lieu sans mai 68, rupture instauratrice. Elle était de l'ordre de l'improbable, tant il venait de galaxies différentes. Alors il y a eu un coup de foudre amical et ils mettent au point un dispositif de travail à distance. Félix produit des concepts, à jet continu. Gilles organise d'un côté les éclairs, de l'autre le paratonnerre.
Et des livres électriques.
L'Anti-Oedipe, succès considérable qui secoue la domination de la psychanalyse de cabinet. Kafka en 75, 1000 plateaux en 80 et 10 ans plus tard cependant la participation de Guattari n'est plus que marginale dans « Qu'est-ce que la philosophie ?»
L'amitié ne peut pas toujours se maintenir au même niveau.
Mais elle demeure. Félix, cependant, est saisi par la dépression. Gilles, rattrapé par sa maladie pulmonaire. Le premier meurt en 1992, le second en 1995. Deleuze dit de Guattari « Ce qu'il y a de déchirant dans le souvenir d'un ami mort, ce sont les regards qui vous atteignent encore quand il a disparu. »
France Inter, Intelligence Service, Jean Lebrun.
Sachez, Monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Et pour commencer, pouvez-vous nous donner des éléments qui expliquent l'ouverture de ce dossier ?
Nous avons voulu montrer que le travail du philosophe ce n'était pas nécessairement celui du sage retiré dans un cabinet. Il y a une autre tradition de la réflexion, aussi vieille que Socrate, le dialogue avec un autre. Estimer l'autre comme un soi-même, garder l'estime de soi-même comme un autre. Alors la philosophie, c'est un bon observatoire pour interroger la nature et les manifestations de l'amitié. Elle peut être un lieu où pratiquer la philosophie en commun. On pense à Montaigne et la Boétie au XVIe siècle, à l'époque contemporaine en France, à Deleuze et Guattari. Leur amitié s'est souvent passée de mots, se manifestant dans le partage de la joie, dans le fait de pouvoir rire ensemble. François Dos, qu'on va entendre dans cette émission, montre dans le livre qu'il a consacré à Deleuze et Guattari une photo. Ils sont tous deux détendus face à un poste de télé. Oui, parce que Guattari ne manquait pas les grands matchs de foot. Mais évidemment, si leur amitié demeure, c'est par la multiplicité des concepts qu'ils ont jetés pendant une vingtaine d'années sur la table commune.
Pouvez-vous d'abord nous présenter Félix Guattari, Monsieur Lebrun ?
C'était un fils de la bourgeoisie huppée, ce qu'on imagine mal. Son père exploitait la marque Banania et il a toujours eu de quoi mener une vie assez cossue. Mais son choix, c'était de se laisser le choix. Alors, Deleuze, Guattari, on va sans cesse parler à propos d'eux de multiplicité. À cet instant, j'introduis un nom qu'on va retrouver jusqu'au bout, qui va rester important jusqu'au bout, celui de Jean Houry. Avant de faire équipe avec Deleuze, Félix faisait la paire avec Jean Houry qui a fondé Une clinique, la Borde, pour malades mentaux, mais une clinique assez spéciale où les soignants, faut-il dire soignants, laissaient la folie se déployer devant eux.
Au fond du parc, le club, rendez-vous des pensionnaires.
Je lis. 7h, 9h, plus cuisine, plus petit déjeuner annulé pour Costrao. 9h, 12h, accueil dans les SAM. 9h, réunion, ambiance au parc à l'extension. 10h, tabac. 11h, produits d'entretien. 10h à 12h, caisse de dépôt itinérante. 11h, 12h, mise des tables. 12h, repas plus coup de feu. 13h45, rail. 14h.
Il y a beaucoup de malades difficiles. Il faut les pousser tout le temps. Il faut trouver des moyens de les. Pas simplement les distraire, mais de les intéresser à un tas de trucs. C'est pour ça qu'on fait les clubs. Il faut une quarantaine d'ateliers différents. 15h, des ateliers classiques comme la poterie ou les promenades, tout ce qu'on peut imaginer dans une vie collective.
18h, mise des tables. 19h, repas et plonge. 20h, baraté.
On est à peu près 11.
Là, okay. Et voilà.
Thank you.
C'est avec Félix qu'on a créé. Toute une grille pour éviter le cloisonnement.
C'est pour le jardin.
On a créé ce qu'on appelle des roulements.
Vous êtes combien au jardin ?
Ah, ça te regarde pas.
Pour pas que les gens s'enferment dans leurs tâches.
J'ai compté pour 12.
Ça, c'était la démarche fondamentale de la Borde à partir de sa création, très tôt. C'est celle que Houri a mis en place et que Félix Ouattari, qui l'a rejoint très rapidement, également renforcé par sa présence. Donc, à eux deux, ils ont commencé à repenser totalement ce que c'est qu'un lieu de soins.
Un bout de plaisir quand même.
Un infirmier qui n'est pas soigné par un malade, c'est pas un infirmier. Si on se croit indemne, si on se croit supérieur, c'est qu'on est encore plus fou que les gens dont on s'occupe. Il n'y a pas de distinction.
Jean-Claude Pollack, soignant. Pendant 12 ans, c'est pas rien.
Oui, c'est surtout de donner aussi aux gens qui soignent la possibilité de se défaire de toute une série d'a priori identitaires, d'attitudes de savoir ou d'attitudes de domination, parce que quand même très très longtemps, les psychiatres dans les hôpitaux, c'était les maîtres à bord, point. Les patients étaient donc traités contre leur volonté, sans arrêt, de façon parfois extrêmement violente, Et il fallait sortir complètement de ça. L'idée de se centrer autour de l'exigence psychanalytique, c'est de recentrer malgré tout la relation avec les patients du côté de la parole. C'est quand même d'entrer dans un monde psychothérapique où l'essentiel des traitements, c'est d'abord de rentrer en relation avec, de parler avec.
À la Borde, il y avait des fous, que l'on appelait des pensionnaires. J'ai toujours trouvé le mot élégant. C'était un mot long, et c'était mystérieux. Chez Monsieur Seguin aussi, il y avait une pensionnaire. J'aimais aussi le mot permanence. Il est à la permanence, le bureau de la chauffe. Il est de permanence, il fait la permanence. La permanence est fermée. Avait-on peur des fous ? Pas de tous. En tout cas, pas plus que des gens normaux. De certains, il aurait vraiment fallu être imprudent pour ne pas s'en méfier. Est-ce qu'on était gêné ? J'ai découvert l'opéra en descendant l'escalier de la clinique où parvenait un air chanté au grand salon. Mon cœur s'ouvre à ta voix comme s'ouvrent les fleurs. Est-ce qu'on trouve ça anormal qu'il y ait tant de fous au mètre carré aux environs ? À la Borde, on ne soignait que les fous adultes. Il n'y avait pas d'enfants fous. Alors, Est-ce qu'on peut finir par parler comme les fous quand on est adulte?
La Borde était née d'une expérience extraordinaire dans les années 1940 à la clinique de Saint-Alban en Lozère. C'était la guerre et les malades étaient allés travailler pour trouver de quoi se nourrir. C'était la résistance et la maison de santé était devenue un lieu de refuge et de combat. Cette façon ouverte de faire de la psychiatrie s'est peu à peu nommée psychiatrie institutionnelle. Elle ne voulait pas se laisser couper du champ de la société. Jean-Claude Pollack, qu'on a déjà entendu à l'instant, qu'on va entendre plus longuement, est arrivé à la Borde et à Saint-Alban où il a été formé, après avoir présidé le puissant syndicat UNEF des étudiants en médecine. Pour lui, interroger constamment la psychiatrie, c'était une manière de faire encore de la politique.
D'emblée, la psychothérapie institutionnelle était politisée, très clairement, quoi. Alors, c'était pas dit comme ça par Oury, par Félix, oui. Par Oury, c'était dire à quel point il pensait que la psychose, et notamment la schizophrénie, n'est pas quelque chose qui peut se soigner hors du champ social et politique qui l'entoure, quoi. Et que, d'autre part, les thérapeutiques dites individuelles de la psychothérapie des schizophrènes lui apparaissait comme quelque chose d'aberrant à Oury. Et Félix était d'accord avec ça, bien sûr. Parce que d'emblée, il a eu cette idée que on ne pouvait soigner les schizophrènes et pas mal de psychoses graves que dans un collectif. C'est l'idée d'introduire forcément, contrairement à la séance d'analyse bourgeoise et des beaux quartiers, là, ça se passait d'emblée dans une institution où il y avait des tas de gens. Et certains étaient infirmiers, d'autres étaient pseudo-infirmiers, mais pas infirmiers du tout. Il y avait des médecins, etc. Mais très tôt, Oury a passé son temps à dire « Essayez d'oublier que vous êtes des médecins, des psychiatres, etc., etc. Ou que les infirmiers sont des infirmiers, que les médecins sont des médecins. » Parce qu'à ce moment-là, effectivement, on ne peut pas travailler.
Oui, mais les activités politiques... Alors, Oury, très marqué à gauche, restait prudent afin de préserver l'avenir de la clinique. En revanche, Guattari et ceux qui le suivaient de près, comme Jean-Claude Pollack, alors n'hésitez pas à augmenter la mise. Par exemple, Guattari adhérait en apparence au Parti communiste, mais il y multipliait les petits groupes dissidents, notamment ceux qui s'opposaient à la politique nataliste, à la politique anti-avortement de la direction du Parti communiste. Autant dire qu'en mai 68, Guattari navigua dans le mouvement comme un poisson dans l'eau. On raconte qu'un jour, un patient de la Borde put monter pendant cette période sur une scène, prendre la parole à sa façon en jouant sur un piano. Et en terminant, il avait dit « C'est la première fois qu'on me prend pour quelqu'un ». Cette scène aurait pu se passer à l'Odéon occupé à Paris, dont Guattari ne manquait pas les séances désordonnées qui, aux yeux de beaucoup, apparaissaient comme une nef des fous.
Puisque nous possédons un théâtre, ouvrons-le leur et donnons-leur le moyen de s'exprimer justement d'une manière révolutionnaire.
D'accord. La prise en main de ce théâtre, qu'ils aillent, enfin je propose
et
encore
les autres,
une fois,
et les autres,
qu'ils aillent sur la scène par exemple, tout devant
tout le monde.
Comme bénévoles et
spécialistes.
Mais tout le monde, je parle tous les gens qui veulent vraiment participer, qui veulent diriger ça.
Le comité est en train de se former.
Ah oui, justement.
D'une culture de spécialistes.
C'est maintenant qu'il faut le faire, ce comité.
Bon. Mais le comité est déjà formé. On nous faudrait une personne.
Comment il est formé, le comité? Où est-ce qu'il est, le comité?
Il est à l'extérieur.
Comment à l'extérieur? Qu'est-ce qu'il faut à l'extérieur, alors? Le comité, c'est ici, avec nous, qu'il doit être. Comment c'est l'anarchie? Un comité, ici, c'est l'anarchie.
Mais formez-le, un comité sur la scène.
Monsieur Lebrun, loin de l'activisme de Félix Guattari et de l'agitation chère à la Borde, Gilles Deleuze, de son côté, poursuivait un chemin reconnu mais plus discret.
Oui, alors le couple que nous allons voir se former, Deleuze et Guattari, réunissait deux personnalités qui étaient un peu aux antipodes, même si elles avaient été d'accord pour reconnaître l'importance du mouvement de mai 68. Deleuze y appartenait par beaucoup de fibres, mais lui, c'était un enseignant, déjà renommé, et qui aimait le travail un peu en retrait, ni célèbre, ni clandestin, dit-il à Claire Parnet dans son fameux abécédaire.
Est-ce qu'on peut dire que vous formez des réseaux de concepts comme des réseaux de résistance, comme une machine de guerre contre une pensée dominante ou des lieux communs?
Ça, c'est oui, pourquoi pas. Ce serait bien si c'était vrai, ce serait très bien. En tout cas, le réseau est sûrement la seule... si on ne fait pas des écoles, et les écoles, ça ne me paraît pas très très bon, si on ne fait pas des écoles, il n'y a que le régime des réseaux, des complicités, des... bien sûr, ça a toujours été comme ça, d'ailleurs, à toutes les époques. Ce qu'on appelle le romantisme, par exemple, ce qu'on appelle le romantisme allemand ou le romantisme en général, c'est un réseau. Ce qu'on appelle le dadaïsme, c'est un réseau, oui. Alors qu'il y ait des réseaux aujourd'hui, j'en suis sûr, oui.
Réseau de résistance.
Par là même. La fonction du réseau, c'est de résister, oui, et de créer, oui.
Et toi, tu te sens, par exemple, célèbre et clandestin? Cette notion de clandestinité, tu y tiens
un peu? Je ne tiens pas, je ne me sens pas célèbre. Je ne me sens pas clandestin, je voudrais en effet être imperceptible. Ça, c'est... Mais il y a beaucoup de gens qui voudraient, qui veulent être imperceptibles. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que je ne le sois pas. Mais être imperceptible, c'est bien parce que on peut... Oui, c'est... mais ça, c'est des questions alors presque personnelles. Moi, ce que je veux, c'est faire mon travail, c'est qu'on ne m'embête pas, qu'on ne me fasse pas perdre de temps, oui. Et en même temps, voir des gens, parce que j'ai besoin, je suis comme tout le monde, j'aime les gens. J'aime un petit nombre de gens, j'aime les voir. Quand je les vois, je ne voudrais pas que ça fasse le moindre problème, quoi. Des rapports imperceptibles avec des gens imperceptibles, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde, quoi.
Vous avez entendu l'atout de Gilles Deleuze. Son mal pulmonaire, au moment où il rencontre Guattari, est en train de s'aggraver. Et les médecins lui recommandent de demeurer imperceptible, à l'abri, dans le Limousin, dans sa maison de Saint-Léonard de Noblat. L'épuisement a sa part dans la rencontre. Non pas que Deleuze tombe dans la dépendance de Guattari, mais il est disponible pour un rebond qui l'attend. Deleuze a toujours été attentif au possible non abouti. Reclus à la campagne, Deleuze ne va pas faire le déplacement de la Borde, ou alors, très rarement, Jean-Claude Pollack.
Il avait peur des fous. Je ne sais pas dire autrement. Je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Mais moi, j'ai été là, le jour, je crois qu'il est venu une seule fois. Peut-être une deuxième fois très vite, mais il n'est venu qu'une seule fois où il a passé une partie de la journée à la Borde. Il n'a pas quitté le bureau d'Houry. Houry lui a cédé sa place derrière le bureau. Puis il a parlé avec les gens qui étaient là, des gens de la clinique, quoi, qui étaient, bon, l'admiration de Deleuze. Et à un moment donné, on a dit, Deleuze, si tu veux, on va se promener un peu dans la clinique, tu vas voir un peu ce qui se passe, les ateliers, les machins, la vie. Non, je te remercie, non. C'était pas question pour lui. Il était très réfractaire, enfin très effrayé, au fond. Mais je crois qu'il le reconnaissait, hein. Parce qu'il avait cette puissance-là de se dire « Moi, ben, les fous, ça me fait trop peur, quoi. » Je pense qu'il a dû le dire à un moment donné. Et donc, c'était une des raisons pour lesquelles il avait la plus grande admiration pour Félix, hein. Parce que Félix était quelqu'un qui travaillait avec les fous, mais vraiment les mains dans le cambouis. Hein.
La Borde était très liée, il faut introduire son nom, au docteur Jacques Lacan, qui brillait alors de tous ses feux sur la scène intellectuelle. Jean Houry, le fondateur de La Borde, tous les mercredis, allait consulter Jacques Lacan à Paris. Guattari, un moment, a pu penser qu'il succéderait à Jacques Lacan. Pour Guattari, partir avec Deleuze, c'était l'embarquement pour une toute autre aventure au long cours. D'ailleurs, Deleuze fait changer Guattari de vie du jour au lendemain. Félix, qui ne prenait pas le temps de lire les livres jusqu'au bout, qui donnait son temps aux patients de la clinique, qui couraient par mont et par chemin, va se retrouver enchaîné à sa table de travail.
Deleuze a compris le débat entre lui et Lacan. Il a trouvé ça formidable parce qu'il était justement à un moment donné où il pensait qu'il fallait dépasser complètement cette pensée-là. Et tout d'un coup, il voyait quelqu'un qui, en pratique, et avec la connaissance qu'il avait, c'est-à-dire de connaître des malades, etc., etc., d'avoir affaire à la schizophrénie, et la façon dont il parlait, lui qui n'était pas un philosophe, qui n'a d'ailleurs aucune, était ni médecin, ni prof, ni rien, quoi. Il était rien. Il était un intellectuel, on pourrait dire, comme ça. Et je crois qu'il a été très fasciné par ça. Mais il y a eu un coup de foudre, oui, vraiment. Et il en parle, Deleuze. Il y a quand même plusieurs pages où il dit ce qui le fascine chez Félix. Je ne peux pas répéter ça ici, mais il dit c'est assez étonnant de voir quelqu'un qui n'a pas fait de la philo, mais qui est un créateur de concepts aussi extraordinaire. Il dit, j'ai rarement vu quelqu'un qui crée autant de concepts en si peu de temps. Et des vrais concepts, quoi, hein, parce qu'après, il s'en est pris aux faux concepts. Hein. Mais Deleuze, pour lui, la philosophie, c'est ça, la création des concepts. Hein.
Et donc c'est un commando conceptuel que le duo de ces deux hommes, on cherche des métaphores, la guêpe et l'orchidée. Alors on a dit aussi, la mer agitée et la colline calme. Et Deleuze lui-même a fait la comparaison avec les personnages de Flaubert. C'est ce que rappelle François Doss, auteur d'un livre sur leur amitié philosophique.
Avec Félix, on est deux grands amis, et on est un peu comme Bouvard et Pécuchet. C'est-à-dire qu'on veut créer une encyclopédie de tous les savoirs, etc. Donc ça, c'est le côté ironique. De manière plus sérieuse et poétique, en effet, il lui rend justice en disant que voilà, c'est Guattari qui lui a amené effectivement des tas de choses, qui lui a amené des diamants que lui-même a sertis. Et alors, ils vont créer un dispositif tout à fait exceptionnel. Là effectivement, vous me direz, des œuvres à deux. On en trouve, hein. Mais dans ce cas de figure, je pense que là, on est devant une singularité absolue, puisqu'on a deux tempéraments très différents, et deux spécialisations intellectuelles très différentes, mais qui ne vont pas fonctionner comme à l'accoutumée, c'est-à-dire on met ses compétences complémentaires et puis on les assemble. Pas du tout. Leur projet, c'est plutôt de jouer sur le rapprochement des disjonctions et donc de faire fonctionner les courts-circuits pour justement avancer dans l'innovation, dans des concepts. Et le dispositif d'écriture, un petit peu moins ensuite, va être le suivant. Deleuze va dire à son ami Guattari, vous débordez d'idées, mais on ne travaille pas comme ça. Il faut que vous vous installiez à une table de travail, et puis vous allez écrire, vous allez prendre un stylo, et vous allez écrire, mais voilà, de manière absolument spontanée, voilà, vous faites l'écriture à l'état brut. Vous écrivez, noircissez des pages, et puis vous me les envoyez.
De l'utilité des courts-circuits. Au fond, nous sommes dans cette écriture comme dans une partie de free jazz.
Intelligence, service.
Monsieur Lebrun, Le premier livre commun de Deleuze et Guattari ne va-t-il pas provoquer une déflagration dans un monde intellectuel où la parole de Lacan était écoutée avec révérence?
Lacan qui, après Freud, va parler d'Œdipe, de la loi, de la transgression. Lacan qui avait été le phare de Félix Guattari. Mais voilà que, maintenant qu'avec Deleuze, il travaille à quatre mains, en créationnant, disent-ils, ils veulent montrer qu'on ne peut plus écrire et qu'on ne peut plus pratiquer comme autrefois et qu'à la psychanalyse telle que l'enseignait Lacan, on peut apporter une réponse philosophique. Félix Guattari.
Très souvent, malheureusement, les psychanalystes structuralistes se contentent d'écouter sans aucunement intervenir, sans... en faisant toute une théorie sur le fait que c'est comme ça que ça devrait se passer, seulement par l'écoute et le silence, que je ne crois pas du tout pour ma part. Mais enfin, ça, on ne va pas rentrer dans tout cet aspect des choses. Alors, rupture, parce que au fond, nous, on disait, oui, c'est en effet très important, cette subjectivité inconsciente, hors normes, hors des cadres ordinaires. Mais alors... c'est pas seulement quelque chose qu'on va cerner, qu'on va saisir dans le cabinet des psychanalystes, surtout avec la tournure qu'ont pris les choses, mais c'est quelque chose qui se pose aussi bien n'importe où.
Premier point, l'inconscient est multiple.
Je crois que l'inconscient n'est pas du tout réductible, soit à des choses de l'ordre de l'image, de l'ordre des visages, des identifications, et encore moins à des choses uniquement de l'ordre du langage ou du signifiant, qui est une sorte de fondement du langage, de l'écriture, mais qu'au contraire, ça met en jeu, au fond, ce que j'appelle de multiples composantes, et des composantes hétérogènes. J'entends par là que un problème, de quel qu'il soit, aussi bien de vie quotidienne, enfin de psychopathologie de la vie quotidienne, pour reprendre un titre de Freud, ou des problèmes de névrose, d'actes manqués, mettent en jeu toujours des composantes très hétérogènes. C'est-à-dire pas seulement des effets de langage, pas seulement des effets d'image, mais aussi des problèmes de rapport au sein de la famille, au sein du couple, des problèmes relatifs à l'environnement, des problèmes économiques, des problèmes d'argent, des problèmes même politiques et sociaux. Et c'est beaucoup plus dans cette direction d'un enrichissement de ce qui fonctionne effectivement dans l'inconscient, c'est dans cette direction que je souhaiterais trouver un autre type de modèle-là.
C'était Guattari, et François Deuss raconte comment, avec Deleuze, ils arrivent tous deux à ce titre, l'anti-Édipe.
Ils vont s'en prendre à un certain freudisme, et donc à Freud, à certaines interprétations aussi de Freud, sans remettre totalement en cause la psychanalyse, mais à certaines interprétations de Freud qu'ils jugent réductionnistes, lorsque, effectivement, Freud réduit la scène matricielle, initiale, au rapport au père, au nom du père, à la mère, l'enfant, et en ajoutant la bonne. Là, il y a une réduction familialiste que veut dire justement la lecture oedipienne. Et Deleuze et Guattari disent non, pas du tout.
C'est-à-dire que la
psychiatrie... On délire. Ouais. Voilà, c'est là où la psychiatrie apporte, et apporte sur ce qu'on peut dire des schizophrènes et des psychotiques en général. C'est-à-dire, comme le dit Deleuze, on ne délire pas papa-maman, on délire le monde, on délire l'histoire.
Inconscient multiple, inconscient ouvert vers l'extérieur. Félix Guattari de nouveau.
Au fur et à mesure que la subjectivité est écrabouillée, si vous me permettez l'expression, par le système de mass média, par la publicité, par ces énormes équipements collectifs qui produisent du sujet comme ils produisent des automobiles ou des chaussures, eh bien le problème de retrouver, non pas une maîtrise, mais le sens de la singularité de son rapport à la vie, de son rapport à l'existence. Ben ça, c'est un problème qui va se poser de plus en plus. De plus en plus, les gens auront finalement moins d'assurance dans leur travail, dans leur vie sociale, et auront de plus en plus besoin de se construire, de se fabriquer eux-mêmes. Et ça, c'est le problème analytique par excellence. Donc, notre attaque contre Freud et contre Lacan, c'est finalement au nom de la découverte psychanalytique. C'est pour que l'analyse continue et ne s'enlise pas dans ces querelles dogmatiques, dans ces chapelles qui finalement nous présentent une pratique de l'analyse de plus en plus pauvre, de plus en plus stérile.
C'est-à-dire qu'il fallait un peu sortir du cabinet.
Oui, oui, évidemment. Et même en restant dans le cabinet, sortir du cabinet, c'est-à-dire ouvrir les fenêtres au moins du cabinet et être préparé à entendre toutes sortes de choses.
Oui, pour respirer. C'est une affaire de respiration. Les fenêtres ouvertes, un flux passe. L'inconscient qui se libère du carcan œdipien des psychanalystes classiques. Le flux, est-ce qu'il avance, est-ce qu'il revient vers nous? Alors les deux partenaires de l'anti-Œdipe vont inventer le concept de machine désirante. Nous serions des machines désirantes, avec des pistons, des moteurs, à plusieurs temps. Enfin, pas facile de faire image avec un concept. Jean-Claude Pollack.
Les gens, quand je leur parle de machines, ils voient toutes sortes de trucs, quoi. Hein, des avions, des trains, etc. Mais la machine, c'est simplement quelque chose, une force, on pourrait dire, qui produit. C'est l'idée de production qui est très très importante. Et que donc l'inconscient est absolument fait d'une production, qu'on appellera des machines, sans arrêt, en acte, hein, et qui n'est pas réductible à ce qui se passe à l'intérieur d'une famille, tout simplement. Hein. Ça implique effectivement toute la société, l'organisation sociale, l'économie politique, et que on est d'emblée sur ce terrain-là. Hein. Mais c'est un retour, d'une certaine manière, ça c'est peut-être moi qui le dis comme ça, mais je le pense, il y a un retour partiel à quelque chose qui était important au premier Freud, qui était effectivement la pulsion, enfin, le terme de pulsion. Et qui là va être repris d'une façon très, très profonde. Hein. Parce que la pulsion, au fond, c'est très très proche du machinique tel qu'on parle de Deleuze et Guattari. Hein.
Machine désirante.
Voilà, machine désirante. Ben, c'est un peu l'idée que ça a à voir avec quelque chose qui est présent dès le départ dans l'être, quoi. Hein. Dès la naissance, on pourrait dire. Il y a, alors, si on veut figurer les choses, on peut dire le bébé sort du ventre et il commence à téter. La vision de Félix, c'est que ce qui se passe dès la naissance, c'est une petite machine. Il y a d'un côté une machine qui produit du lait, et de l'autre côté, il y a une machine qui l'absorbe. Et ce sont deux machines. Ça, c'est pour donner un exemple de départ. Ça indique bien les choses, au fond. Hein. Et que, par la suite, on aurait tort de penser que ça va changer. Non, ça va continuer comme ça. C'est-à-dire que, sans arrêt, on est dans des systèmes machiniques qui vont se complexifier, bien sûr. Hein. Pourquoi désirante ? C'est que ça a à voir avec tout ce qui est de l'ordre, on pourrait dire, du désir, de l'amour, hein, et de la sexualité aussi. Les machines désirantes, ce sont aussi les machines sexuelles, d'une certaine manière, on peut dire. Hein.
Mettre le désir en mouvement et le rendre productif. La machine contre la structure qui emmure. La grille de lecture classique de la psychanalyse par l'Œdipe, encore et toujours, c'était une entreprise de réduction. En lui tendant le seul miroir de l'inceste, on faisait honte au désir et on le mettait dans une situation sans issue. Mais une autre recommandation, c'était de reconnecter l'inconscient au social et à la politique, et de passer de la psychanalyse à la schizoanalyse. Lacan furieux demandera, mais c'est quoi la schizoanalyse? Alors on va pas se hasarder à une définition fixée ici. Jean-Claude Pollack dit simplement que Guattari creuse un nouveau sillage.
Et il était déjà, avec Deleuze, en train de penser un troisième courant de la psychanalyse. Quoi. Je vais un peu vite en disant ça. Il y a la période freudienne, bien sûr, fondatrice. Il y a Lacan, la deuxième internationale, en plus. Lacan se met à la tête d'un deuxième courant psychanalytique, etc. Et puis, il y a une troisième entrée, avec pas création du tout d'une institution quelle qu'elle soit, mais qui est une entrée philosophico-politique très particulière, qui est celle de la schizoanalyse. Et la schizoanalyse, ben, effectivement, ne parle que de ça. Elle parle sans arrêt de la société, de la politique, etc., etc., bien sûr.
Alors, essayez de nous définir la schizoanalyse.
La schizoanalyse remet complètement en question l'inconscient. C'est une critique radicale de l'inconscient, du signifiant. Enfin, c'est beaucoup une rupture, dans un premier temps, rupture radicale avec Lacan. La rupture de Félix avec Lacan, qui n'a plus jamais revu par la suite, était évidemment une rupture sur le fond même, sur le système lacanien, sur sa pensée de la psychanalyse. Et donc, il y a eu une rupture qui passait aussi par la critique fondamentale des trois S, on pourrait dire, c'est-à-dire du signifiant, du sujet et du symbole. Mais je crois qu'il y a un autre S encore que j'oublie. Mais c'était d'emblée dire que les choses se passent ailleurs. Ça, c'était en tout cas très très important. Hein.
Intelligence, service. France Inter.
Monsieur Lebrun, le duo Deleuze-Guattari, ou Félix-Gilles, ne jouera-t-il pas également un rôle politique ?
Ben, après les années 68, Guattari cultive le goût qu'il a toujours eu pour les petits groupes. Mais quand on vit avec les fous, observait Guattari, ça dissout la paranoïa militante. Lorsque Pollack, rentrant de Chine maoïste, avait fait part de son enthousiasme à Félix, celui-ci lui avait répondu « Ah bon, il y a donc 800 millions de schizophrènes dans ce pays ?» Alors de même pour Deleuze, et davantage encore, on ne l'entend pas critiquer le marxisme, mais pas non plus encenser le maoïsme. Ce qu'il met souvent en difficulté à l'université expérimentale de Vincennes, qu'il a rejointe au début des années 70, et où Alain Badiou, récit de François Doss, à la tête de sa fraction Mao, lui mène la vie dure.
Il y a une année où Deleuze ne pouvait pas terminer son cours sans que ou Badiou en personne, ou les Badiouistes interviennent dans son cours, pour lui dire qu'il fallait appuyer la lutte de Rodiaceta, c'était un petit bourgeois, que sa théorie était anti-révolutionnaire. Alors Deleuze était toujours très gentil, très, très accueillant. « Ah, Alain, comme tu es gentil de venir me voir !» Et il faisait circuler son chapeau, vous avez toujours son chapeau, Deleuze, donc, pour soutenir les travailleurs, on va donner un peu. Et il espérait continuer son cours, et puis il voyait très bien qu'il n'était pas intervenu pour simplement faire une petite intervention, un interlude, mais que c'était pour interrompre. Et pendant une année, il n'a pas pu véritablement terminer ses cours à Vincennes.
Oui, Badiou considérait que Deleuze et Guattari organisaient un complot bourgeois contre la nécessaire organisation disciplinée des vrais révolutionnaires. Et alors que va-t-il penser, Badiou, d'un autre concept qui est mis sur le tapis par le duo Guattareuse dans Mille Plateaux en 1980, le concept de rhizome? Alors c'est quoi un rhizome ? Eh ben c'est un lieu où on entrera par n'importe quelle porte toujours l'idée conductrice de la multiplicité, partout des connexions, en tout point, porteuses de significations les plus diverses. Si on veut des comparaisons végétales, on opposera le rhizome, qui pousse horizontalement, à l'arbre, avec ses ramifications hiérarchisées. On peut penser aussi au château de Kafka, avec ses portes dissimulées. Deleuze et Guattari ont consacré un ouvrage à Kafka. Il leur a paru figurer un cas parfait, autre concept, de déterritorialisation. Kafka, juif de Prague, n'écrivait pas en tchèque, mais en allemand, c'est-à-dire dans une langue déterritorialisée, comme Beckett écrivait en français alors qu'il venait d'Irlande. Quand on choisit la déterritorialisation, on gagne en vibration, en intensité, et les conditions peuvent devenir géniales pour produire une littérature extraordinaire. Déterritorialisation et rhizome, ça va ensemble, parce que ça s'oppose frontalement à l'enracinement. Les géographes ont beaucoup tiré parti de ce concept, puisque aujourd'hui, le spatial, c'est de plus en plus le 10 juin. Alors, c'est pas un hasard si Deleuze s'est autant intéressé au mouvement palestinien, favorisant la fondation de la revue d'études palestiniennes, qui sera longtemps une référence. François Doss.
Comme l'a dit Foucault, le 21e siècle sera deleuzien. Et il l'est en effet, parce que on est dans aujourd'hui, par exemple, un agencement, pour prendre quelque chose que ils avaient déjà thématisé dans les années 70, mais qui est encore plus actuel en 2021, c'est l'agencement entre la déterritorialisation et la reterritorialisation. Il ne s'agit pas justement de dire que on est pour l'un ou pour l'autre, mais on est, si j'ose dire, en même temps, dans cet entre-deux. Déterritorialisation et reterritorialisation, si vous voulez, c'est aujourd'hui plus qu'hier. On le voit bien, puisque la mondialisation n'a cessé de progresser. La pandémie nous le confirme encore. Il y a là une échelle des problèmes, on dirait aujourd'hui environnementaux, planétaires, de survie de notre planète et de notre humanité, qui ne se pose pas en termes local, mais en termes planétaires, global, mondial. Et en même temps, on assiste à des crispations identitaires, des replis d'identité dans son identité d'origine, dans son lieu qui vous a vu naître, où on a passé son... Donc, et les deux doivent être justement articulés, l'un et l'autre, ce qui n'est pas simple. Il y a des échelles d'analyse spatio-temporelle à prendre en compte. Et ça, c'est des choses qu'ils avaient très très bien vues. De la même manière qu'ils ont très bien vu... Ça, c'est un texte de Deleuze un peu final, qui est son texte qui s'appelle « La société de contrôle ». Où d'ailleurs, sans polémiquer par rapport à son ami Foucault, il montrait que le modèle n'était plus celui du panoptique, il n'était plus celui de l'enfermement que thématisait Foucault dans « Surveiller et punir » en 1975, qu'on n'avait plus besoin de mettre les gens comme ça, enfermés dans un lieu et de les... de trouver une structure architecturale qui permette de les voir dans ce lieu fermé. Non, on est contrôlé dans les lieux ouverts. Bon, c'est un texte, vous voyez, des années, début des années 90 de Deleuze. Bon, j'ai pas besoin de faire un dessin sur ce qu'est aujourd'hui la société de contrôle dans laquelle on vit, qui est notre quotidien.
On va vers la fin de cette amitié. Elle peut se vivre dans le 10 juin. Le point d'arrêt du travail commun des deux hommes est marqué par la publication en 91 de « Qu'est-ce que la philosophie ?». C'est un projet personnel de Deleuze. Il a tenu à associer le nom de son inspirateur des années précédentes au livre. Et tous deux, ils disent leur accord sur une définition commune de la philosophie. C'est tracer, inventer, créer, et créer, c'est s'exposer. L'un et l'autre avaient de la vie une conception esthétique, mais l'effort était difficile à tenir. Tant que vous pouvez tenir un stylo, continuez, disait Deleuze. Mais Guattari était tombé en dépression, et Deleuze lui-même, qui ne pouvait plus survivre qu'avec un respirateur, avait de moins en moins la force de tenir ce stylo, alors qu'une extrême sensibilité des doigts l'empêchait de taper sur un clavier. Guattari à retrouver des forces en revenant à la source, à la borde. Il a suivi de nouveau le séminaire hebdomadaire de Jean Houry, à la grande joie de celui-ci. L'éloignement géographique d'avec Deleuze était compensé par ce rapprochement avec le premier ami. Et sa dernière activité fut l'animation, un soir encore, du grand groupe, l'instance où se prenaient les décisions avec les patients de la borde. Puis, Guattari mourut.
Il y avait un orchestre de jazz et énormément de monde. Cela a été un enterrement bouleversant. L'auteur et comédien Enzo Corman donne lecture d'extraits de Ritournelle, le récit d'autobiographie fragmentaire de Félix. Il est debout devant le cercueil, accompagné par un quatuor de cuivre, et il raconte. Je lis d'abord une demi-page, seul. Puis l'orchestre m'accompagne à partir de la phrase « Est-ce que vous me reconnaissez ?» Je pose la question. La musique démarre. Je pleure. Qu'ai-je de mieux à faire ? En même temps, le cercle des amis veut témoigner du désir de vivre et de l'enthousiasme toujours manifesté par Guattari. Et l'enterrement se termine par une sorte de fête.
On a fait une grande fête, non ? Le soir de son enterrement. Parce que c'était la forme positive. Une fête cool, hein, extrêmement tranquille, comme ça. Dans laquelle les gens surtout souriaient entre eux, comme ça. Et c'était la chose absolument plus positive qu'on pouvait faire parce que c'était exprimer cet optimisme spinozien, spinoziste, non ? Avec Deleuze, il a beaucoup parlé de ça, de cette possibilité de créer une nouvelle essence humaine.
Où la joie n'était pas absente,
non.
C'est un concept de Spinoza important.
C'est absolument fondamental, ça. Vous voyez, c'est, même quand il parlait des politiques... Et je crois que la politique, avec la folie, les deux choses vont très bien ensemble.
On en a quelques exemples, involontaires,
quelquefois. Ensemble, quand il parlait des politiques, il ne parlait toujours dans cette manière extrêmement positive, non ? Développer des buts, des intérêts, des passions, des désirs, construire cette grande totalité qui n'était pas une chose préformée, ce n'était pas quelque chose d'idéologique, ce n'était pas quelque chose de contraignant. C'était vraiment quelque chose que les gens construisent ensemble.
C'est un souvenir assez fabuleux, un très beau souvenir. En général, chacun jette dans le caveau une fleur. Là, j'ai vu des gens jeter leur alliance, leur trousseau de clés, des trucs extraordinaires.
Remerciement à François Doss qui a publié un Deleuze Guattari aux éditions de La Découverte et tout récemment un livre sur les amitiés philosophiques du XXe siècle chez Odile Jacob. Jean-Claude Polac publie chez RS, notamment Politique de l'inconscient. Les lectures Alexis Chevalier, la prise de son Yves Lehors, Hélène Langlois, à la Maison de la Radio et de la Musique Théo Gomard, les agents d'intelligence service Frédéric Martin et Franck Olivard, la réalisation Audrey Ripouille.